Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Tout un service d'urgence en arrêt maladie.
Action rarissime cette nuit dans un hôpital parisien. Les professionnels de santé dénoncent leurs conditions de travail et veulent forcer le gouvernement à discuter. Un afflux de connexions fait sauter le site internet des impôts. Bercy donne 48 heures de plus pour remplir sa déclaration après le gros bug survenu hier soir. Dans ce journal, la reine Elisabeth vante le multilatéralisme devant Donald Trump. Dîner d'État hier soir à Buckingham et les explications alambiquées de Patrick Balkany sur l'achat de son riad à Marrakech.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
Chaleur et soleil aujourd'hui en Haute-Saône. Il y est prévu 33 degrés à Saint-Sauveur.
RTL Matin.
Et donc pour commencer, ces médecins urgentistes qui se font porter pâle.
C'est le dernier mode d'action qu'ont trouvé des professionnels de santé pour forcer le gouvernement à discuter. Cette nuit, l'ensemble du personnel de l'hôpital Lariboisière à Paris s'est mis en arrêt maladie. L'équipe de jour a dû rester pour assurer le tout venant. Depuis plusieurs semaines, de nombreux services d'urgence font grève un peu partout en France. Christophe Prudhomme est le porte-parole de l'association des médecins urgentistes.
Moi, c'est une forme extrême de protestation. C'est le troisième service où ce type de situation se produit. Il y a eu Chalon-sur-Saône, Lens-le-Saunier, maintenant Lariboisière. La réponse là, des personnels est due à l'inconséquence des gens qui nous gouvernent. Quand vous avez une ministre qui, face à un conflit social, fait appel uniquement à la conscience professionnelle des personnels pour qu'ils continuent à travailler dans des conditions dangereuses pour les patients et pour eux-mêmes, la marmite explose à un moment donné. Ça bouillait et ça explose.
Des propos recueillis par Mélina Fachin pour RTL. 48 heures de plus pour remplir sa déclaration d'impôt. La décision a été prise in extremis hier soir par le ministre des Comptes Publics. 4 millions de personnes ont cherché à se connecter en même temps, explique Gérald Darmanin. C'est l'effet, selon lui, d'un long week-end ensoleillé. Les contribuables s'y sont pris au dernier moment. Cela a provoqué un engorgement du site de l'administration fiscale. Le nouveau délai expire demain soir, le 5 juin, à minuit. Cela ne concerne que les contribuables des départements numérotés à partir de 50 et jusqu'à l'outre-mer.
Discrètement, la reine Elisabeth a fait de la politique hier soir.
Dîner en grande pompe pour la visite d'État de Donald Trump. Dans son discours, la souveraine s'est bien sûr gardée de tout commentaire sur la politique du président américain. Elle n'en a pas le droit, mais ça ne l'a pas empêchée de faire l'éloge des institutions internationales comme l'OTAN ou les Nations Unies, régulièrement malmenées par son hôte.
Après nos sacrifices communs lors de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni et les États-Unis ont travaillé avec d'autres pays pour créer une assemblée et des institutions internationales pour s'assurer que les horreurs de ce conflit ne se répètent jamais. Bien que le monde ait changé, nous n'oublions pas l'objectif de ces structures, des nations qui travaillent ensemble pour sauvegarder une paix durement gagnée. Monsieur le Président, dans le futur, je suis persuadé que notre culture et nos intérêts communs continueront à nous unir.
La reine Elisabeth hier soir, propos traduits pour RTL par Marie Billon. Les grands élus de la droite et du centre se réunissent aujourd'hui autour du président du Sénat. L'initiative avait été prise par Gérard Larcher juste après la déroute des Républicains aux Européennes, mais avant la démission de Laurent Wauquiez. Celui-ci sera présent comme président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. En revanche, Xavier Bertrand, qui a pris ses distances avec le parti, ne sera pas là.
Et tiens, rendez-vous politique ce matin. Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, sera l'invité d'Elisabeth Martichoux tout à l'heure à 7h45. Après la pause sur RTL, on en vient donc à cette habitude horripilante dont on discute avec vous depuis 4h30 au 3210. Un tiers des Français ne décrochent pas les yeux de leur smartphone pendant les repas. En faites-vous partie ? On vous révèle les détails de cette étude juste après ça sur RTL.
RTL Matin,
Julien Cellier.
Et la suite de votre journal à 6h06 sur RTL est insupportable. Nous avons tous fait cette réflexion à l'un de nos proches un jour ou l'autre.
Et une étude que vous révèle RTL ce matin confirme que les Français sont accros à leur smartphone, particulièrement les plus jeunes. Un tiers des 18-34 ans restent les yeux rivés sur l'écran pendant le repas. Et d'après cette enquête de l'Institut Kantar, une majorité de personnes interrogées considèrent pourtant que c'est un manque de politesse schizophrénique. Vous avez pu constater chez ces jeunes parisiennes rencontrées hier pour RTL, Sébastien Rouxel.
C'est la fin du repas pour Lucille et ses trois collègues. La jeune femme de 28 ans garde sa main posée sur le smartphone au bord de la table. Pendant tout le repas, elle n'a pas arrêté d'y jeter des coups d'œil.
Toutes les 5 minutes, je pense que je regarde au moins rien que la page d'accueil, quoi. C'est un réflexe aussi contre l'ennui.
L'ennui, c'est l'une des justifications les plus souvent citées par les 25-34 ans. Comme beaucoup, Lucille a besoin d'être occupée tout le temps. Et même à table.
Des fois, on n'a pas de discussion, on n'a pas de dialogue, donc du coup, bah, ça nous permet de combler les trous, quoi, si on peut dire ça.
Les smartphones au repas, Bérangère n'en peut plus. Pour elle, c'est un manque de politesse, alors elle a pris une décision très simple. Sa fille n'a plus le droit d'utiliser son téléphone à table.
J'estime qu'elle y est quand même suffisamment comme ça sur le smartphone. Ça occupe, hein, mais... C'est un peu dommage de ne pas pouvoir discuter entre nous. Quand on est vraiment ensemble, en famille, là, le téléphone, il n'est pas sur la table. D'accord. Et il n'est pas loin.
8 Français sur 10 sont favorables à un retour des repas sans écran, mais plus facile à dire qu'à faire. Chez Bérangère, l'interdiction est loin d'être toujours respectée.
Merci Sébastien Rouxel.
La défense de Patrick Balkany, mise à mal hier lors de son procès.
Le maire de Levallois a tenté d'expliquer l'achat de son somptueux riad de Marrakech. Il affirme l'avoir fait pour rendre service à un milliardaire saoudien qui est lui-même présent sur le banc des prévenus. Son récit a été contredit point par point par l'intéressé. Vous étiez à l'audience pour RTL, Thomas Proutot.
Oui, les mystères de la villa de Marrakech prennent désormais les teintes d'un conte oriental. Patrick Balkany est en verve. Le riad, c'est très simple, commence-t-il, le visage écarlate. Le personnage central, c'est toujours Mohamed Al-Jaber, selon lui, le milliardaire saoudien qui bouge sur le banc des accusés. Mais le maire de Levallois livre une nouvelle version. À l'époque, le saoudien aurait été menacé de mort dans son royaume. Vous savez, dans ces pays, on vous coupe la tête ou les mains, gouaille Patrick Balkany d'un air entendu. Al-Jaber lui a donc demandé assistance pour une opération secrète. Une opération secrète, c'est Todd Benoîtement, le président. Oui, c'est exactement cela. Mais pourquoi avoir pris un tel risque au vu du montage financier offshore, interroge le magistrat. Explication, le Saoudien était impliqué dans une opération immobilière cruciale à Levallois. Il ne fallait pas le perdre. On sait bien que les chers arabes ont des caprices, continue Patrick Balkany sur sa lancée. Le milliardaire saoudien bondit de son banc. Je voudrais remercier M. Balkany pour m'avoir sauvé la vie en m'achetant une maison au Maroc, mais je ne suis jamais allé dans ce pays. Les deux hommes se toisent. Entre eux, un flux de 3,5 millions d'euros reste inexpliqué.
Thomas Proutot. Enfin, le tennis à Roland-Garros après les éliminations de Benoît Paire-Hegel, mon fils dernier français en lice. Hier, place aujourd'hui au duel Wawrinka-Federer. La dernière confrontation entre les deux Suisses sur la terre battue parisienne s'était soldée par l'élimination de Federer. C'était en 2015.
Un duel suisse, donc, tout à l'heure. Et effectivement, je crois que Wawrinka avait gagné d'ailleurs en 2015,
gagné, oui,
après
en
2015, cette victoire.
Il avait gagné le tournoi, effectivement.
Le tournoi, effectivement. Merci beaucoup, Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure à 7h.